franceinter.fr.
Le journal vous est présenté par Philippe Habitboul. Bonjour.
Bonjour. Médecins sans frontières avait pourtant signalé la position de l'hôpital à toutes les parties ce matin. Raid aérien mené par des avions de l'US Air Force. Il a fait 9 morts et 37 blessés dans un hôpital géré par MSF à Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan. Les frappes russes en Syrie, au cours des dernières 24 heures, les avions russes ont effectué plus de 20 sorties. Moscou fait-il cavalier seul et surtout contre qui? Nous poserons la question à Jean-Paul Chagnolot, le directeur de l'Institut Recherche Méditerranée et Moyen-Orient, sera l'invité de ce journal. Il y a l'accueil des migrants et le scandale chez Volkswagen en pleine crise d'identité. L'Allemagne commémore les 25 ans de sa réunification, cérémonie à Francfort. Dans ce journal, nous nous intéresserons également au voyage au Japon de Manuel Valls pour marquer le lancement de l'année de l'innovation entre les deux pays. Malgré le carton rouge, Sepp Blatter refuse de quitter le terrain. Les grands sponsors du football mondial réclament pourtant son départ immédiat. Le mondial de rugby, s'ils perdent, eux, ils vont partir plus vite que prévu. Pour se qualifier pour les quarts de finale, les Anglais doivent impérativement battre ce soir les Australiens. La défaite aurait de graves conséquences sportives, mais aussi économiques. Le temps moyen demain de la Bretagne au Pays Basque. Ailleurs, finalement, le soleil finira par s'imposer, mais il fera plus frais.
France Inter.
C'est un secteur stratégique que se disputent depuis plusieurs semaines les talibans et les forces gouvernementales afghanes. À Kunduz, en Afghanistan, un hôpital de Médecins sans frontières a été détruit ce matin par un bombardement. 9 employés de l'ONG ont péri, sans compter d'ailleurs les blessés soignés dans cet hôpital qui ont succombé. Le bilan, vous l'imaginez, est donc loin d'être définitif. Bombardement déclenché par les avions de l'OTAN, il a duré 30 minutes, alors que Washington avait été alerté. Tous les adeptes du politiquement correct considéreraient cela comme un dégât collatéral, mais en réalité, Thibault Lefebvre, on peut parler de bavure.
Il est 2h10 hein, cette nuit quand le bâtiment est touché. À ce moment-là, de violents combats opposent les talibans à l'armée afghane, soutenue par les forces de l'OTAN. L'OTAN, qui reconnaît par la voix de son porte-parole, le colonel Brian Tribus, avoir bombardé la zone et qui n'exclut pas avoir causé ce qu'il est courant d'appeler en langage militaire des dommages collatéraux. L'hôpital, géré par MSF Belgique, est situé dans la localité de Chardara, c'est au nord-ouest de Kunduz. Il abritait au moment du bombardement plus d'une centaine de patients et 80 personnels afghans et étrangers. Depuis ce matin, les blessés sont évacués dans un hôpital à 2 heures de la ville. Dans un communiqué, MSF condamne fortement le bombardement qui aurait continué une demi-heure, vous l'avez dit, après l'alerte envoyée à Kaboul et à Washington. L'ONG précise que les coordonnées géographiques du bâtiment étaient connues de l'OTAN. Depuis le début de la semaine, Kunduz est le théâtre de violents combats entre les talibans et l'armée afghane. Et selon Kaboul, la bataille de Kunduz a fait une soixantaine de morts et environ 400 blessés.
Merci Thibault Lefebvre. J'ajoute que photos et vidéos des dégâts ont été fournies par MSF et sont visibles sur notre site franceinter.fr. Quatrième jour de frappe russe en Syrie. Ce matin, les avions de combat russes ont bombardé des cibles du groupe djihadiste État islamique. Ces frappes ont détruit un poste de commandement et un bunker de Daesh près de la ville de Raqqa. Raqqa, le fief de l'organisation extrémiste située dans le nord-est du pays. Et pendant ce temps, l'Iran ne reste pas les bras croisés. Des centaines de soldats iraniens seraient arrivés en Syrie ces jours derniers. Comme Moscou, Téhéran soutient le régime de Bachar al-Assad. Alors, on n'en est pas encore, bien sûr, à une opération terrestre des Pasdaran iraniens en Syrie, mais pour la Syrie, eh bien, l'Iran est sur l'axe de Moscou, Shavos Ghazi.
L'Iran considère l'opération militaire russe contre les groupes armés terroristes en Syrie comme une étape dans la lutte contre le terrorisme, déclarait dès jeudi la porte-parole de la diplomatie iranienne. Depuis le début de la crise, l'Iran soutient financièrement et militairement le régime du président Bachar al-Assad en envoyant sur place des conseillers militaires pour soutenir l'armée syrienne. La presse iranienne fait également état régulièrement d'obsèques de volontaires iraniens ou afghans tués en Syrie. Le président Rouhani l'a encore récemment déclaré, la priorité pour l'Iran est de soutenir le gouvernement syrien pour détruire les groupes terroristes comme l'Organisation de l'État islamique ou encore le front al-Nusra qui est lié à Al-Qaïda. Pas question donc de lâcher le président syrien dans ce contexte. Pour l'instant, les autorités iraniennes n'ont rien dit sur un éventuel engagement militaire supplémentaire en Syrie. Mais l'Iran, la Russie, l'Irak et la Syrie ont décidé de créer une commission de coopération pour lutter contre Daesh. L'Iran aide déjà le gouvernement irakien et les Kurdes d'Irak dans leur lutte contre les djihadistes. Terence Yavoshkiazi, RFI pour France Inter.
Et Jean-Paul Chagnolot, bonjour.
Bonjour.
Jean-Paul Chagnolot, vous êtes professeur des universités, directeur de l'Institut de recherche Méditerranée et Moyen-Orient. Jean-Paul Chagnolot, à quel jeu joue Vladimir Poutine avec ce cavalier seul, ce soutien inconditionnel à Bachar al-Assad ?
Oh, je crois que c'est pas simplement un jeu. Je crois que depuis maintenant des années, la Russie veut et réussit à revenir dans la communauté internationale comme une puissance absolument incontournable. Je pense qu'il faut rappeler d'un mot ce qui s'est passé au mois d'août 2013. Chacun s'en souvient, lorsque les États-Unis avaient dit qu'ils allaient frapper l'armée du régime de Bachar el-Assad parce que il y avait eu utilisation d'armes chimiques. On se souvient que les Russes avaient réussi à détourner tout cela, et finalement ça avait contribué à soutenir diplomatiquement, politiquement, Bachar el-Assad. Et donc, il y a vraiment une volonté, une détermination russe qui est ancienne, qui remonte dès 2011, à soutenir Bachar. Et là, on est dans une phase très importante, sans doute décisive, parce que là, il y a un engagement militaire. Et il faut voir que cet engagement militaire s'accompagne aussi d'une offensive diplomatique. Il était aux Nations Unies, alors qu'il n'a pas mis les pieds depuis 8 ans aux Nations Unies, avec un discours assez habile.
On peut peut-être aussi, Jean-Paul Chagnolot, ajouter que Moscou a de gros intérêts géostratégiques dans la région. Il y a les ports, le littoral, et puis les débouchés sur la Méditerranée.
Oui, mais je crois que c'est, si vous voulez, ça c'est vrai, bien entendu. Mais ça rentre, à mon avis, dans une stratégie plus globale, qui est la volonté de la Russie de revenir comme une grande puissance. Et elle le fait à tous égards. La preuve, c'est qu'elle était aux Nations Unies pour réclamer une résolution au Conseil de sécurité, reprendre sa place au Conseil de sécurité. Mais bien entendu, il y a aussi des, comme vous le dites, des intérêts très précis à Tartoussoyer. Enfin, ce qui est quand même très important, c'est que depuis maintenant quelques semaines, il y a un engagement russe très important. Au sol, on ne sait pas exactement où on en est, mais manifestement, il se passe des choses importantes. Et les frappes qui ont commencé, elles sont importantes et vont sans doute durer des semaines. En tout cas, c'est ce que disent les Russes.
Alors, on a fortement l'impression qu'actuellement, le ciel syrien est très encombré. Il y a des drones et des avions américains, des avions français, des avions russes, quelques appareils peut-être syriens, avions ou hélicoptères. On imagine mal, Jean-Paul Chagnolot, que toutes ces opérations ne soient pas coordonnées.
Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Sur un plan purement logistique, il est évident que s'il n'y a pas de coordination, ça peut conduire à des choses assez graves, parce que, comme vous le dites, le ciel est encombré. Mais je pense qu'au-delà de ça, parce que ça, je pense que les contacts entre les militaires vont se faire, il s'agit de prévenir tout danger de télescopage entre les avions. Mais je pense que l'autre aspect est politique, c'est-à-dire que occuper le ciel comme cela, c'est aussi avoir une position politique et diplomatique très forte, c'est renforcer Bachar el-Assad et en même temps conduire à une solution politique dont les Occidentaux aujourd'hui ne veulent pas. Il faut
absolument, puisque
rappeler la position de la France.
Absolument, François Hollande qui a dit récemment, Bachar était à l'origine du problème, il ne peut pas être la solution.
Oui, je crois que les États-Unis sont sur la même ligne. On a entendu Obama et Hollande aux Nations Unies il y a quelques jours. Ils étaient sur la même ligne, c'est-à-dire qu'il faut frapper en Syrie, mais uniquement Daesh. Il faut assurer la sécurité des civils et puis surtout, il faut mettre en œuvre une transition politique sans Bachar el-Assad. Et là-dessus, les Russes, évidemment, sont en désaccord complet. Et je pense que le déploiement militaire auquel on insiste est évidemment lié à cette position politique.
Jean-Paul Chagnolot, rapidement, une dernière question. À force de chercher une légitimité internationale à tout prix dans cette intervention en Syrie, ne risque-t-on pas d'affaiblir la force de l'intervention et ses résultats ?
Quelle force d'intervention ?
La force d'intervention aussi bien du côté des Russes, des Américains que des Français.
Vous savez, je crois qu'on a une, il faut penser le problème en termes de dialectique. Je pense que on ne peut pas avoir de négociation et réussir une négociation s'il n'y a pas un rapport de force militaire. Et ce qui se joue en ce moment aujourd'hui, et ça va sans doute durer un certain temps, c'est ça. C'est qu'on a bien conscience qu'il faudra arriver à une solution politique et que cette solution politique, elle est assez largement dépendante de la réalité des rapports de force sur le terrain. Et donc, c'est ça la position russe. Et pour l'instant, les Occidentaux sont un peu en retrait par rapport à ça, malgré leur volonté d'agir de manière efficace.
Et Jean-Paul Chagnolot, je vous remercie. Jean-Paul Chagnolot, directeur de l'Institut de recherche Méditerranée et Moyen-Orient, il était l'invité de ce journal. L'Ukraine, hier à Paris, les dirigeants français, russes, allemands et ukrainiens ont convenu d'un report des élections locales pour être sûr du bon déroulement du scrutin. Et pour ce faire, il faut d'abord consolider le cessez-le-feu qui, pour le moment, paraît globalement respecté. Pour y parvenir, eh bien, tous les participants en ont convenu, il faut favoriser le retrait des armes légères des zones de conflit. Ce matin, premier geste concret, les séparatistes pro-russes s'assurent avoir commencé à retirer les chars de la ligne de front, information qui n'a pas pu encore être vérifiée. La commémoration en Allemagne du 25e anniversaire de la réunification, le 3 octobre 1990, la RFA et la RDA unissaient leurs destinées, un quart de siècle d'unité pour un pays qui, aujourd'hui, doit faire face à une réelle crise d'identité avec deux soucis majeurs, l'accueil des migrants et puis aussi le scandale Volkswagen qui pourrait d'ailleurs faire souffrir l'économie allemande. Voilà pour le contexte. Cyril Sauvageau, bonjour.
Bonjour.
Cyril, je parlais de contexte, l'Allemagne traverse une mauvaise passe, mais pour l'heure, les Allemands sont tout aux festivités, aux cérémonies qui se déroulent à Francfort. Francfort, où vous vous trouvez ?
Oui, des cérémonies plutôt modestes, hein, rien à voir avec le faste des 25 ans de la chute du mur en novembre dernier à Berlin. La date, il faut le dire, était sans doute plus symbolique. Aujourd'hui à Francfort, c'est le peuple allemand et ses représentants qui se retrouvent et qui célèbrent leur unité retrouvée. Angela Merkel, le président de la République allemande, les ministres, les dirigeants des 16 Länder sont tous là. 1 million de personnes sont attendues aujourd'hui à Francfort pour les festivités. Ce matin, tout a débuté dans un lieu symbolique, la Paulskirche, une église considérée comme le berceau de la démocratie allemande, puisque c'est ici qu'a eu lieu la première Assemblée nationale en 1848. Les commémorations se sont ensuite poursuivies à la cathédrale et à l'Opéra de Francfort. En toile de fond, il y a, vous l'avez dit, la crise des réfugiés qui divise l'Allemagne en ce moment. Ironie de l'histoire, le slogan des 25 ans est le suivant: vaincre les frontières, un drôle de symbole au moment où l'Allemagne renforce ses contrôles et sa politique de droit d'asile. Pour les militants des droits de l'homme qui ont manifesté hier à Francfort, ce 25e anniversaire doit justement être l'occasion de se souvenir comment l'Allemagne a réussi, il y a un quart de siècle, à accueillir, à prendre en charge des millions de réfugiés qui ont fui l'Allemagne de l'Est au moment de la chute du mur.
Cyril Sauvageau en direct de Francfort avec les moyens techniques de Laurent Macchetti. Manuel Valls, lui, est au Japon, voyage de 3 jours pour lancer l'année de l'innovation entre les deux pays. Voyage qui a débuté par une première journée à Kyoto, étape largement consacrée à la culture nippone. Valls, très zen, mais un Premier ministre tout de même qui n'oublie pas pour autant la politique française, Laurence Perron.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Manuel Valls aussi chaleureux. On n'ira pas jusqu'à lui faire l'offense du jovial, mais aux côtés de sa femme, la violoniste Anne Gravoin, il prend le temps de se poser face aux œuvres de jeunes artistes français dans le temple de Shimogamo. Il va même jusqu'à s'agenouiller au pied d'une petite fille de 3 ans en costume traditionnel Shinto.
Tu vas être très connue en France.
Elle s'appelle Kiki pour la petite histoire. Le Premier ministre dépose une pièce, un vœu secret, dans une petite urne en bois. Manuel Valls est zen.
Moi, je suis toujours zen. La rentrée, elle est pas difficile, elle est marquée par des défis considérables qui intéressent d'ailleurs aussi le Japon. Les tensions diplomatiques, un monde qui a besoin davantage d'ordre, les tensions avec la Russie. Sur tous ces sujets-là, ce plan diplomatique, le Japon et la France avancent ensemble, donc zen au Japon et... zen en France.
Une petite parenthèse de zénitude donc pour Manuel Valls avant l'arrivée qu'on ne peut pas totalement exclure tonitruante de son ministre de l'économie après-demain. Kyoto, Laurent Lucas, Laurence Perron, France Inter.
Et oui, lundi Emmanuel Macron rejoindra Manuel Valls. À Calais, le trafic a repris progressivement et les Eurostars circulent désormais à nouveau dans les deux sens. Le trafic avait été interrompu pendant 8 heures en raison de l'intrusion de plus d'une centaine de migrants. Des migrants qui ont forcé une clôture et pénétré à l'intérieur du tunnel sur 15 kilomètres, Anne Patinec.
Visiblement très organisés, les migrants, qui étaient plus d'une centaine, ont découpé la clôture et forcé le passage vers 00h30, malgré la présence des agents de sécurité d'Eurotunnel. Ils ont pénétré dans le tunnel sud et parcouru une quinzaine de kilomètres, du jamais vu, selon la préfète du Pas-de-Calais, Fabienne Bussio.
C'est un nouveau front qu'ils nous ont ouvert. Ils n'avaient jamais cherché à s'introduire de ce côté-là, parce que ça ne représente pas beaucoup d'intérêt pour eux, parce qu'ils peuvent juste entrer dans le tunnel en passant de ce côté-là. Et vous savez très bien que le tunnel, c'est pas possible pour eux de passer. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit, puisqu'on n'a pas eu de difficultés pour les reprendre et les évacuer. Ils ont été tous, alors qu'ils étaient nombreux, tous arrêtés.
Selon la préfecture, 23 migrants ont été placés en garde à vue, 4 légèrement blessés suite à des chutes, tout comme 2 gendarmes. La direction d'Eurotunnel dénonce une attaque massive, ciblée, organisée. Le trafic totalement interrompu durant la nuit a repris vers 8h ce matin. Depuis cet été, les intrusions de migrants sur le site d'Eurotunnel, une étendue de 600 hectares se multiplie. Des travaux de sécurisation sont en cours, notamment là où se sont produits les incidents de cette nuit. 29 km de clôture supplémentaires vont être installés.
Philippe Habiboul.
Inter 13.
J'y suis, j'y reste. Sepp Blatter a finalement décidé de rester aux commandes de la FIFA. C'est sa réponse aux pressions exercées par les grands sponsors du football mondial. Coca-Cola, McDonald's, Budweiser et Visa qui ont demandé hier le départ de Blatter car avec toutes les affaires actuelles de scandales et de corruption qui frappent l'organisation internationale, chaque jour qui passe, Édouard Marguier, l'image et la réputation de la FIFA se ternissent un peu plus.
Les quatre sponsors américains ne supportent plus Blatter à la tête de la FIFA. Ils veulent son départ immédiat. Pour le bien du football, écrit carrément Coca-Cola dans un communiqué, le premier à avoir attaqué avec McDonald's, suivi ensuite de près par Visa et Budweiser. C'est la première fois que ces groupes prennent position publiquement dans cette affaire de corruption qui a éclaté en mai dernier. La goutte d'eau, cela a été l'ouverture il y a une semaine d'une procédure pénale en Suisse contre Sepp Blatter. Personnellement, trop c'est trop, disent les sponsors. Ils exigent une réforme urgente de la FIFA sans ce président-là. Ils ont toute la légitimité d'ailleurs pour se faire entendre. Ils sont des partenaires dits globaux qui finance en partie la Fédération Internationale de Football. Entre 2010 et 2014, par exemple, Visa et Coca ont déboursé 30 millions de dollars chacun et chaque année, presque 27 millions d'euros pour pouvoir utiliser l'image de la FIFA dans leur publicité. Joseph Blatter, par la voix de son avocat américain, a très vite répondu. Il restera président de la FIFA coûte que coûte jusqu'en février, date des prochaines élections. Il ne cédera pas à la pression de ses sponsors. D'ailleurs, il pourra s'appuyer sur Adidas, un autre grand mécène du foot mondial. L'équipementier allemand vient de s'exprimer. Il ne demande pas la démission immédiate de Blatter, mais veut simplement que le processus de réforme enclenché se poursuive dans la transparence.
La Coupe du Monde de rugby, l'Angleterre au pied du mur, battue pour ne pas dire humiliée par le Pays de Galles. Le 15 de la Rose dispute ce soir le match de la dernière chance pour accéder au quart de finale. Les Anglais jouent contre l'Australie à Twickenham. Défaite interdite face aux Wallabies. Dans le cas contraire, eh bien, ce serait la fin de l'aventure. Difficile à concevoir quand on est organisateur de l'épreuve. Si ce soir les Anglais sont battus, cela aura à coup sûr, Franck Matvon, des conséquences aussi bien sur le plan sportif qu'économique.
C'est le jour du jugement, titre le Times. La presse anglaise se perd en superlatif. Le match le plus important, le plus tendu, le plus indécis de cette Coupe du Monde jusqu'à présent. 15 millions de Britanniques seront devant leur télé ce soir, 80 000 de plus à Twickenham. Une élimination serait une terrible gifle pour le pays hôte. L'entraîneur anglais Stuart Lancaster a toujours eu les faveurs des médias, mais il aurait du mal à survivre à un tel échec. Le capitaine Chris Robshaw, lui aussi contesté, devrait sans doute abandonner son brassard et la fédération anglaise essuierait le feu des critiques. Elle a misé gros sur ce mondial. Elle a dépensé 100 millions d'euros juste pour s'acheter les droits d'une compétition que les Anglais suivraient de loin si leur équipe n'était plus en course. Bien sûr, les billets sont presque tous vendus et les Gallois pourraient rallier de nombreux fans. Mais dans quelques heures, la Coupe du Monde 2015 deviendra peut-être le drame du rugby anglais ou à l'inverse, la belle histoire d'une résurrection. Londres, Franck Matvon, France Inter.
Angleterre-Australie, coup d'envoi à 21h. Ils vous attendent tout le week-end. Les refuges SPA de France sont ouverts cette année. Ils mettent en avant la notion d'adoption responsable. Et comme toujours, le but, bien sûr, c'est de trouver de nouvelles familles pour des milliers de chiens et de chats qui ne demandent que cela. Mais il faut aussi savoir que, faute d'adopter, vous pouvez aussi aider la SPA grâce à vos dons ou en faisant acte de bénévolat. À Nîmes, Sylvie Charbonnier s'est rendue dans un refuge SPA qui fonctionne notamment grâce à la mobilisation de ses bénévoles.
Carlos, viens. Viens, viens, bébé. Viens.
Angèle a une petite soixantaine d'années. Elle est à la retraite depuis quelques mois et elle est bénévole à la SPA. Elle vient au refuge 4 jours par semaine.
La journée, j'arrive vers les 13h30 à peu près. Suivant le planning, parce qu'on a un planning pour les chiens, tous les jours, ceux qui sortent ou ceux qui sortent pas, on essaye de les faire sortir tous. On va les chercher, on va se promener en garrigue, on leur fait des câlins, on les brosse.
Et donc, son chouchou, c'est Carlos, un pauvre grand chien abandonné à l'âge de 4 mois.
Personne n'en a jamais voulu. Ses frères et sœurs ont été adoptés et lui, pas. Pourquoi ? On ne sait pas. Il avait peut-être une histoire avant, mais nous, on ne la connaît pas.
Ici, les bénévoles comme Angèle qui viennent chaque jour promener les chiens, ça ne manque pas. En revanche, ce qui manque au refuge...
Alors, ce qui nous manque cruellement, ce sont les bricoleurs.
Claude Rouquette est présidente de la SPA de Nîmes.
On n'arrive pas à avoir de bénévoles bricoleurs. Bon, c'est du petit bricolage, de toute façon, mais faire des choses avec peu de moyens, voilà, surtout.
Car c'est bien ça le problème, le peu de moyens. Et ces deux journées portes ouvertes, c'est aussi pour ça, récolter des dons. Seule source de financement des refuges. Sylvie Charbonnier, France Bleu Garloser pour France Inter.
Journée portes ouvertes à la SPA, c'est tout le week-end. Je vous retrouve à 19h. Je vous souhaite un excellent après-midi. Tout de suite, la météo.
La météo avec Bleu Forêt. Fabricant français de chaussettes et collants en matière naturelle. Coton, fil d'Écosse, soie cachemire pour hommes et femmes. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Merci Philippe Habitboul. On vous retrouve à 19h pour un nouveau journal, 13h20 sur France Inter. On fait un point sur les couleurs du temps.
De nouvelles pluies d'orages sont arrivées par le sud sur les régions voisines de la Méditerranée, excepté sur la Corse. Le temps depuis ce matin est en train de se dégrader. Sur les 6 départements passés maintenant en vigilance orange, les pluies, les orages vont s'intensifier. Sur le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Drôme, les orages dans les heures qui viennent s'accompagneront de très violentes averses et de bourrasques de vent. Et en deuxième partie d'après-midi, cette puissante vague d'orages se décalera vers le Var et les Alpes-Maritimes. En remontant vers le Lyonnais, les pluies d'orages qui arrivent du sud seront beaucoup moins marquées. Sur le sud-ouest, près des Pyrénées, les éclaircies vont revenir. Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne, le temps est à l'orage et en cours d'après-midi, ces orages se décaleront vers la Touraine, le Berry et la Bourgogne. En allant vers le nord, le temps sera beaucoup plus calme. Entre Bretagne et Île-de-France, les nuages alterneront avec des éclaircies. Sur les régions de l'Est, après quelques ondées en Lorraine ce matin, il y aura un peu de soleil. Puis en soirée, le temps deviendra menaçant. Et puis sur le Nord-Pas-de-Calais, le soleil l'emportera tout l'après-midi. Et les températures cet après-midi en baisse sur le sud-ouest et l'Auvergne, proches de 20 à 21 degrés à Paris, Strasbourg, Rennes et Marseille. Elles atteindront en Corse 24 à 25 degrés. Demain, le temps s'arrangera sur le sud et ça se gâtera demain après-midi près de l'océan.